En mars 1996, le prince héritier de la famille Hohenzollern, propriétaire du château de Sigmaringen, se remémorait le début de cette histoire.
Vous savez, à la fin du août 1944, mon père a reçu un télégramme par le ministère des étrangers, M. von Ribbentrop, que le château pour le gouvernement de Vichy est réquisitionné.
La famille Hohenzollern a été expulsée de son château pour y installer les vestiges du régime de Vichy. Et ce n'est pas tout.
Ma famille, mes parents et 13 membres de la famille, nous étions arrêtés par la Gestapo le même jour que le maréchal Pétain était arrivé ici à Sigmaringen.
Les nazis ont donc emprisonné cette famille de la haute noblesse allemande au profit d'un triste sire, un vieux maréchal vaniteux devenu le chef de file des fuyards.
Il y avait un programme qui nous avait séduit. Travail, famille, patrie nous séduisait. C'est ce qui avait déterminé au départ notre engagement.
Philippe Pétain, escorté par l'armée allemande, quitte la ville de Belfort le 7 septembre 1944 à 6h30 du matin. Le cortège emprunte quelques routes alsaciennes jusqu'à franchir le Rhin avant de s'installer à Fribourg pour la nuit. Le surlendemain, le maréchal déchu et sa courte suite arrivent à Sigmaringen. Le château est massif, immense. Plus de 800 pièces réparties sur 7 étages. Le 10 septembre, débarque à son tour Pierre Laval et son entourage. Commence alors une étrange cohabitation où règnent l'angoisse et le désœuvrement. C'est le prologue d'une opérette pathétique et tragique. Quelles relations entretiennent Philippe Pétain et Pierre Laval à Sigmaringen? À quoi ressemble leur vie dans cette imposante forteresse médiévale? Et quelle attitude adoptent-ils vis-à-vis des autres exilés français? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Aujourd'hui, sereine mais impitoyable, la France accuse. Et les visages de ceux qui croyaient faire de l'ouest de l'Europe le jardin de loisirs de l'Allemagne victorieuse sont blêmes.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Crépuscule des Bourreaux. Deuxième épisode, le bal des fantômes.
Vous allez ployer le genou en terre en signe de dévotion envers le maréchal en qui la France s'incarne.
Tentons maintenant de nous approcher du wagon DSS. Aux fenêtres pendent à côté de drapeaux tricolores les drapeaux noirs marqués des deux SS en forme d'éclair.
Est-ce que ça vous gêne si on dit que en 1941 vous étiez un jeune fasciste?
Non, ça ne me gêne pas.
Bon.
Les jeunes, après moi, vive le maréchal!
Je parle de Pétain, je parle de Laval.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne.
Et je parle de Sigmaringen. C'est un moment de l'histoire de France qu'on voit venir.
Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable.
Ici Nuremberg.
La France vous demande que justice soit faite.
Le récit débute le vendredi 29 novembre 2024 au pied du château de Sigmaringen en milieu d'après-midi. Accompagnés de nos trois historiens français, nous avons rendez-vous avec une employée du château.
Bonjour, je m'appelle Virginie Reignet-Zaup. Je travaille au château depuis 11 ans en tant que guide conférencière.
Et vous êtes française?
Et je suis française, originaire de Marseille.
D'accord, voilà. Donc vous avez fait un bout de votre vie ici en Bade-Württemberg.
Voilà, je suis venue fonder une famille dans le Bade-Württemberg, exactement.
D'accord. Est-ce qu'avant d'arriver ici, vous connaissiez un petit peu l'histoire, entre guillemets, française de Sigmaringen?
Pas beaucoup. Sigmaringen, je connaissais le nom, mais comme je pense beaucoup de Français, une fois que Pétain quitte la France, c'est pas vraiment ce qui se passe. Et j'ai redécouvert ça avec beaucoup d'intérêt ici au château.
Virginie Reignet-Zaup va nous servir de guide dans les méandres de cette forteresse. Deux guérites encadrent l'entrée du château, que nous franchissons avec l'historienne Bénédicte Vergès-Chaignon, pour nous engouffrer ensuite dans un étrange tunnel.
C'est une forte pente
couverte, très large et pavée, dont on imagine qu'elle a été aménagée pour permettre à des voitures à chevaux et à des chevaux de monter jusqu'à la cour. La pente est très forte, donc vos auditeurs devront m'excuser si je suis essoufflée au bout d'un moment. Le pourcentage est assez digne du Tour de France.
C'est vrai.
Dans ses pires étapes. Alors, haut de plafond, avec des arcs, un peu comme dans une église, nous sommes accompagnés tout du long de cette progression par des trophées de chasse, des bois très imposants qui alternent avec des armures, ou du moins le haut d'armure. Et nous sommes éclairés par de petits lanternons en fer forgé. Mais nous avons de la lumière naturelle grâce à une baie avec une sorte de petite galerie qui donne sur le Danube pour nous récompenser au bout du parcours.
À mi-chemin de cette galerie en pente, nous découvrons un modeste corridor dans lequel Virginie Régnier-Zaupe nous fait entrer pour nous montrer un graffiti gravé dans la pierre tendre du château. Violaine Ballet et l'historien Henri Rousseau tentent de le déchiffrer.
Allons-y. Alors, la France vivra car elle est éternelle. Vive Pétain, à mort le, un mot illisible, sanglant de Gaulle.
La magie sanglante ? Non.
Le diable.
Ah, peut-être le diable.
Le diable sanglant.
Oui.
À mort le diable sanglant de Gaulle.
Ça doit être le testament d'un des collabos qui a fini, on ne sait comment, on ne le saura peut-être pas. Mais mm-hmm. Ce qui est très frappant, c'est que De Gaulle est écrit en beaucoup plus gros que tout le reste.
Oui.
Ce qui est la marque, enfin, je suis une interprétation au pied levé, je ne connaissais pas ce graffiti, c'est, on est vraiment dans le ressentiment. L'important n'est pas Vive Pétain, c'est Abat De Gaulle. C'est vraiment ça qu'on voit tout de suite. Quoi. C'est
assez bien l'esprit de l'expérience Sigmaringen, en fait.
Ah oui, à Sigmaringen règne un peu l'espoir qu'un jour ils vont rentrer en France sur les chars allemands. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de ressentiment, de haine, de vengeance. Voilà, ils sont vraiment dans l'idée de revanche.
Est-ce qu'on peut un peu décrire l'endroit où nous sommes, Bénédicte ?
Nous montons un escalier à ample révolution avec marbre, dorure et tapis rouge.
Absolument. Et donc c'est un peu des escaliers assez raides. Donc en effet, Philippe Pétain, 88 ans, ne prend pas ces escaliers, mais un ascenseur particulier pour lui. Hein.
Et il paraît qu'il aimait assez s'occuper dans cet ascenseur en montant ou descendant quand il n'avait rien d'autre à faire.
Presque comme dans un manège, en fait. Il montait, descendait.
Pourquoi pas ?
D'accord. À son arrivée au château de Sigmaringen, début septembre 1944,
Virginie, on vous suit.
Le maréchal Pétain se voit accorder un appartement de prestige, situé au dernier étage.
Alors ici, nous sommes dans la chambre qui apparemment a été habitée par le maréchal Pétain et son épouse et qui, avant l'arrivée des Français ici, était les appartements de la famille princière.
Il y a une très belle vue sur la région, sur le, on ne peut pas dire le village, mais c'est plutôt le bourg de Sigmaringen.
Henri Rousseau.
Quand j'ai commencé à m'intéresser à la chose, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tous ces mois ? Alors, à part ceux qui s'activaient pour faire semblant de gouverner, il y a tous les autres qui n'avaient pas grand-chose à faire. Alors, il y avait une grande bibliothèque, il y avait des ouvrages en français. Ils devaient surtout s'ennuyer, voilà.
Dites-moi, vous avez déjà rencontré le maréchal ?
Pas pour le moment.
Oh. Vous savez ce qu'on dit de lui ici ?
Non.
Les heures de lucidité du vieillard sont aussi courtes que les heures de lumière les jours d'hiver.
Il était tout seul, maréchal, avec la maréchale.
Roger Blanchard, chauffeur de Philippe Pétain, 1996.
Les après-midi, je pensais souvent, si on ne sortait pas, eh bien, ils faisaient les allers-retours dans le couloir qui était très long. Ils faisaient 12, 15 allers-retours. Alors la maréchale, en pensant, disait, ah bah ça y est, on est au 15e voyage. Alors, il pensait comme ça, et puis lui et son petit pas de chasseur, toujours ferme.
Avec lui, un entourage assez restreint, sa femme, toujours, la maréchale Pétain, comme on dit, Annie Pétain. Et puis, également, alors, jusqu'à la fin du mois de novembre, son médecin, le docteur Bernard Ménétrel.
Tu m'as fait mal. Je vous prie de m'excuser. J'ai assez d'embêtements comme ça. C'est justement ce qui me tracasse.
Qui est ensuite enlevé ou arrêté, selon ce que l'on peut dire, par la Gestapo.
Pour quelle raison ?
Parce que, premièrement, il faisait une propagande effrénée dans les alentours quand il pouvait, pour signifier que le maréchal Pétain était prisonnier des Allemands. Et ensuite, il était considéré par Fernand Brinon en particulier, mais aussi l'ensemble des membres de la commission gouvernementale ici, d'être le principal empêcheur de tourner en rond, c'est-à-dire celui qui servait de garde-fou à Pétain pour l'empêcher de donner son aval, sa protection, sa caution à cette commission gouvernementale.
Les Français de Sigmaringen sont ici les hôtes de l'Allemagne. Et la commission que je préside ne peut excuser plus longtemps les supposées activités anti-allemandes du docteur Ménétrel. Le maréchal s'en trouve très, très irrité. Bon, c'est vrai que les vieillards n'aiment pas qu'on leur change leurs habitudes, mais il oubliera très vite cet incident, soyez-en certains.
Souvenez-vous, Fernand de Brinon préside la commission gouvernementale de Sigmaringen avec l'espoir que le vieux maréchal Ladoube, comme son représentant officiel, à la tête du nouveau gouvernement. Mais Philippe Pétain est très circonspect. Il se déclare prisonnier des Allemands et il préfère se tenir à distance des collaborationnistes.
Il est très prudent. Il a été amené à la prudence de vive force par les récriminations de Bernard Ménétrel et il a bien retenu la leçon. Il l'a d'autant mieux retenu qu'il commence à préparer sa défense. Il écoute la radio. Il a donc entendu à la mi-septembre 1944 qu'il était mis en accusation en France, bon, dans un premier temps devant la justice militaire, ensuite devant la haute cour de justice.
Actualité française, automne 1944.
Il faut dire et répéter qu'il a livré la France à l'ennemi. Il a couvert de son autorité les persécutions et les déportations, bien sûr. Tout cela aurait eu lieu quand même s'il n'avait pas été là. Mais il n'en aurait pas partagé la honte. La France eût été crucifiée, soit, mais ni plus ni moins qu'elle ne l'a été. Nous n'aurions pas dû supporter l'humiliation de voir justement un maréchal de France accepter tout cela en notre nom.
Et donc, il essaye de commencer à préparer sa défense. Il la prépare en étant dépourvu de documents. Bien entendu, il n'a pas quitté Vichy en emportant ses archives. Il ne peut compter que sur sa mémoire, qui n'est pas excellente et qui ne va pas aller en s'arrangeant au fil des mois. Et finalement, il va assez rapidement perdre de vue ce qui pourrait être les accusations qui vont être portées contre lui. Donc, en réalité, la trahison, l'attentat contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, pour se concentrer sur, au fond, ce qui l'intéresse lui, c'est-à-dire préciser qu'il n'a pas eu de rôle dans la défaite de la France en 1940, préciser qu'il n'a pas demandé à prendre le pouvoir qu'on lui a offert et ajouter ce que moi je considère comme une enjolivure, c'est-à-dire que jamais il n'a souhaité faire de la politique, mais qu'il voulait simplement cimenter l'Union française.
Écoutez ce que j'ai préparé. 1. J'ai toujours résisté aux Allemands. 2. Donc, je ne pouvais être que favorable à la résistance. La résistance est le signe de la vitalité d'un peuple. 3. En tant que chef de l'État, je ne pouvais l'approuver publiquement en présence de l'occupant.
Mais enfin, Bernard, qu'est-ce qu'il fait ?
Il écrit, Madame la Maréchale.
Outre la préparation de sa défense, Philippe Pétain occupe ses journées en apprenant l'anglais. C'est à la mode. Et en suivant de très près les aléas sur les champs de bataille.
Il y avait une carte représentant toute l'Europe. Et alors, chaque jour, cette carte était épinglée avec un drapeau de la couleur de l'armée qui avançait. Alors, il y avait le drapeau américain, anglais, je crois que même il y avait un australien, ou un canadien, et un français. Et chaque jour, la carte était pointée les avances des alliés.
Le drapeau français flotte sur Metz délivré.
Actualité française, automne 1944.
En même temps, les troupes françaises sont venues retrouver chez lui le Lion de Belfort. Rien n'arrête les Gypses, pas même les ponts détruits par l'ennemi en retraite. Les généraux Eisenhower et Delattre de Tassigny préparent les dernières poussées. Les tirailleurs défilent les premiers dans cette ville qui ouvre aux armées alliées les portes de l'Alsace.
Bien à l'abri, dans son château de Sigmaringen, Pétain jouit par ailleurs d'un traitement de faveur alimentaire. Il ne manque de rien et on lui sert ses repas dans de la vaisselle aux armes des Hohenzollern. Enfermé dans sa suite, le vieux maréchal se fait discret, tel un spectre que les ministres de Vichy, exilés eux aussi, croisent en de rares occasions.
Les gens du pseudo-gouvernement, du gouvernement de fantômes, s'embêtaient tellement en général qu'on allait à la messe.
François Crouzet, fils d'un collaborationniste, 1988.
On allait à la messe le dimanche à l'église de la ville. Et l'église de la ville, c'est la chapelle du château. Et on y retrouvait, on y apercevait, dans une loge en haut à gauche, remplaçant les princes de Hohenzollern qu'il avait délogé involontairement, le maréchal Pétain, tranquillement, qui suivait sa messe.
Marcel Déa, dans son journal, le 8 octobre 1944. La grand-messe. Le maréchal, la maréchale et Ménétrel apparaissent dans la loge du prince, tout en haut à gauche de l'autel. Ménétrel joue les enfants de chœur et lit, avec une attention soutenue, son livre de messe. La vieille a l'air d'un affreux dragon, le maréchal a les traits tirés. Prêche stupide du curé même, qui exalte les vertus du rosaire, grâce auquel la guerre pourrait être gagnée.
Sentant le vent tourner depuis son arrivée en Allemagne, le maréchal refuse d'intervenir dans les affaires publiques. Disons qu'il se considère gréviste. Mais alors quel rapport se sont instaurés entre Philippe Pétain et les ministres français pro-nazis de la commission gouvernementale ?
Alors non seulement il ne se montre pas, mais s'il est sollicité, il refuse de recevoir ceux qui se présentent. Et d'ailleurs, puisqu'il est logé dans ce perchoir, les Français de Sigmaringen appellent cet étage l'Olympe. Voilà, c'est-à-dire un dieu lointain qu'on ne voit jamais.
Alors on va descendre au sixième étage dans les appartements de Pierre Laval. Alors allons-y.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout.
Le 10 septembre 1944, Eugénie, l'épouse de Pierre Laval, note dans son carnet ses impressions.
Arrivée à Sigmaringen. Quel monde !
quel milieu? Faudra-t-il vivre dans cette ambiance?
Meine Damen und Herren, willkommen im Schloss der Hohenzollern Sigmar.
Donc nous allons descendre à l'étage inférieur où se trouvaient les appartements de Pierre Laval.
Virginie Régnier-Zaupe, notre guide, nous conduit au sixième étage du château de Sigmaringen. À quoi ressemble-t-il ?
Ouais, voilà.
Monsieur et Madame Laval sont hébergés dans les appartements de la princesse. Un mobilier assez léger avec du brocart un peu partout sur les murs, les fauteuils et les canapés et des consoles en argent. Apparemment, la princesse, en faisant réaménager cette partie du bâtiment au 19e siècle, a cherché du confort et de l'intimité.
Depuis leur chambre, les époux Laval voient eux aussi le Danube comme Philippe Pétain. Poursuivons la visite de ce sixième étage avec l'historien Renaud Meltz, le biographe de Pierre Laval.
C'est un espace d'abord qui est séparé nettement à la fois de Pétain, puisqu'il s'agit de ne pas se croiser, ils se détestent, et de l'étage de ceux qui veulent perpétuer la fiction de la souveraineté française dans ce petit territoire. Ce ne sont pas les pièces les plus vilaines ni les plus chargées du château, mais les Laval les détestaient néanmoins. Ceci dit, voyez, dans la pièce qui suit, les tentures sont bleues. Et comme Laval est très superstitieux et que le bleu était sa couleur fétiche, il voyait quand même un signe favorable. Ceci dit, tout ce qui était apparat et une espèce de fiction que les Allemands voulaient lui imposer avec des dîners, avec les notables allemands, lui insupportait tellement que certains jours, Eugénie ne venait pas et que les Allemands ont fini par comprendre qu'il fallait plein insister. Et donc, progressivement, on peut dire qu'ils se sont recroquevillés dans ces appartements, que leur vie sociale s'est réduite à peu de choses. Et seuls vraiment les fidèles et les proches étaient là, à savoir les ministres dormants, notamment Gabold, son ancien garde des Sceaux.
Tu notes ? Pourquoi suis-je revenu au pouvoir ? Pour défendre et protéger mon pays. Si c'est un crime que j'ai commis, alors je l'ai commis contre moi-même et contre les miens.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis Belfort, Laval est rentré dans une position non seulement de chef dormant d'un gouvernement qui n'existe plus, mais dans une logique de justification par rapport à un procès à venir, mais aussi par rapport à la postérité. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il avait perdu la partie sur le plan politique. Il sait qu'il ne reviendra pas, quoique. Ils ont une telle confiance en eux, Eugénie et Pierre, qui se disent parfois que l'expérience de Gaulle va mal tourner, que le communisme fera qu'un jour on rappellera des hommes expérimentés. Mais c'est surtout le jugement de l'histoire, et il se met à rédiger fiévreusement et à donc faire dactylographier ce que j'appelle des quasi-mémoires. Et donc il passe le plus clair de sa journée, finalement, à justifier sa politique, en revenant assez obsessionnellement sur certains épisodes où il était aux affaires bien avant la guerre, par exemple 1935 et l'alliance qu'il a voulu nouer avec l'Italie pour contrer Hitler, et puis des moments qu'il considère comme des pierres de touche de sa politique sur lesquelles il craint d'être jugé, l'armistice, qu'il essaye de justifier tout en expliquant qu'il y est pour rien, et le 10 juillet 40, c'est-à-dire la fin de la Troisième République, et plus globalement la politique de collaboration qu'il ne renie pas. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que tout le reste de la colonie Sigmaringen continue la collaboration, lui ne la renie pas, contrairement à ce que pourra faire Pétain, par exemple, à son procès. Il ne jouera jamais la ligne de défense du double jeu. Il a été un collaborateur, il l'assume, mais il pense que cette collaboration n'est plus possible, et il essaie de s'en expliquer.
Les conditions de l'armistice sont terribles. L'Allemagne va gagner la guerre, c'est sûr. Et dans cette Europe nouvelle qui va naître, la France doit trouver sa place. N'est-ce pas ? La collaboration est donc absolument nécessaire. D'ailleurs, à Montoire, Hitler nous a tendu la main.
Résumons. Au 7e étage, on trouve Pétain et sa suite. Au 6e, Laval et son entourage, dont les ministres dormants, autrement dit, ceux qui refusent de participer à la commission gouvernementale pro-nazie de Fernand de Brinon.
Asseyez-vous, je vous en prie.
Fernand de Brinon, qui lui est installé au 5e étage, avec les ministres actifs, dont Marcel Déat, Jean Luchaire ou encore Joseph Darnand.
Voilà, vous pouvez servir.
Et dès cette époque, dans son carnet, Eugénie Laval tente de se persuader qu'ils ne sont pas du même bord que ces gens-là. Une manière pour elle de sauver l'honneur de son mari.
Pourquoi nous avoir mis avec tous ces gens qui étaient des adversaires et combattaient tous les jours dans les actes et leurs journaux la politique que faisait mon mari?
Ajoutons quand même qu'Otto Abetz, l'ancien ambassadeur nazi en France, proche de Laval, et Helmut Noren, le chef de la Gestapo à Paris avec qui Laval a collaboré, logent également au château. Avant tout très inquiet de rester sans nouvelles de sa fille Josée, Pierre Laval fume cigarette sur cigarette. Et son ulcère le fait terriblement souffrir, au point de recevoir de temps en temps la visite d'un médecin un peu particulier.
Céline, dans « D'un château l'autre », 1957. Il faisait très bon chez Laval. Oh, il débagoulait tout seul. Il me demandait rien. Qu'être son auditeur, c'est tout. Lui qui parlait, et qu'il s'en donnait. Il plaidait, d'abord de ceci, de cela, et puis sa cause, sa fameuse cause. Vous aviez plus qu'à hocher. Il incarnait trop la France pour avoir le temps de vous entendre. Je connaissais sa plaidoirie. 10, 20 fois il me l'avait servi.
Ce que n'a peut-être pas compris Pierre Laval, et ce que vous expliquez très bien dans votre biographie, c'est que la France, ce n'est pas qu'un patrimoine matériel, c'est aussi un patrimoine immatériel. La France, ce n'est pas que des petits murets ou des églises. La France est aussi des valeurs, la liberté, la fraternité, l'égalité. Et ça, le régime de Vichy est venu fracasser ces valeurs. Et peut-être que Laval n'a pas assez conscience qu'il est sans doute comptable aussi, peut-être, de cet effondrement des valeurs.
Oui, c'est très, très profond ce que vous venez de dire. Et je crois que c'est vraiment ce qui fait que Laval ne comprend pas certaines choses et qu'il est dans une certaine mesure de bonne foi quand il pense qu'il a défendu la France. Parce que pour lui, la France, effectivement, ce sont les murs de Châteldon, ce sont des choses qui ne se remplacent pas, c'est le matériel. Il passe son temps à justifier, dans ses quasi-mémoires qu'il rédige ici, sa politique en disant « si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire si je n'avais pas mené une politique de collaboration avec l'Allemagne, la France serait devenue une espèce de Pologne, c'est-à-dire qu'elle aurait été administrée directement par les autorités militaires allemandes et on aurait perdu toute marge de manœuvre. » Mais précisément, l'armistice proposait autre chose que les Allemands, malgré la détestation qu'ils pouvaient avoir pour la France ou pour ce qu'elle représentait, savaient que ça représentait quelque chose et n'ont même pas conçu la possibilité de faire de la France une Pologne. Donc Laval a à la fois joui de ce patrimoine immatériel de la France et la piétiner, et il a du mal en effet à comprendre que ce qui rend fou les Français, y compris ceux qui ont été les plus passifs pendant les événements, c'est l'humiliation de la France, c'est la négation de ce qui fait la fierté d'être Français. Lui, il se sent comptable des hommes qui ne sont pas morts parce que la guerre s'est arrêtée avec l'armistice, même s'il n'a pas été aux affaires au moment de l'armistice. Il se sent comptable, et il le répète inlassablement, de tous ces hommes qui ne sont pas partis en prison ou qui ont été négociés dans le cadre du STO pour être moins nombreux ou alors dans le cadre de la relève qui faisait partir volontairement des ouvriers contre le rapatriement de prisonniers de guerre qui étaient depuis plusieurs années dans des camps, dans des conditions déplorables.
En Russie, Pierre, ce sont nos jeunes qui versent leur sang pour la civilisation. Il faut nous aider, livrer des ouvriers pour faire tourner nos usines.
Otto, j'y suis prêt, simplement, contrepartie, envoyez-moi des prisonniers français, mon Dieu.
Vous êtes un redoutable négociateur, Pierre.
Mais je suis auvergnat, Otto. Donnant...
Donnant, je voilà. Sais, Pierre.
Ça me paraît plus juste.
Donc il a une logique, on va dire, comptable, et puis il a surtout une logique matérielle. Son obsession, c'est de dire En fait, j'ai une position d'équilibre. Vous me reprochez des choses, mais c'est vous les extrémistes, vous les gaulo-communistes qui ont fait du terrorisme ou qui ont voulu continuer la guerre à tout prix, mais aussi les ultras, ceux qui sont comme Zéa ou Doriot ou comme Brinon, qui ont voulu faire rentrer la France dans la guerre du côté allemand. Or, moi, j'ai une position médiane qui a consisté, malgré la pression de Hitler, notamment lorsque les Anglo-Américains ont débarqué en Afrique du Nord, maintenu la France en dehors de tout état de belligérance. Encore au moment du débarquement en Normandie, il y a une grosse pression des Allemands d'un côté, mais aussi des milieux ultra-collabos à Paris pour que la France lutte. Laval refuse que les Français s'engagent d'un côté ou de l'autre. Oui, à la politique de collaboration sur un plan donc de la politique, mais non à une belligérance de la France. Et d'ailleurs, lorsque le débarquement en Normandie a lieu, il renvoie dos à dos, d'une certaine façon, les belligérants, en accentuant sur le fait que ceux qui se prétendent des libérateurs sont en fait des destructeurs qui sont en train d'incendier les villes françaises.
Actualité française, 3 novembre 1944.
Châteldon. Ici est né un certain Pierre Laval, dans cette petite maison, qu'il devait troquer par la suite contre ce beau château, quand il se fut enrichi dans la politique. Pierre Laval vivait tout content dans son beau château. C'est de là qu'il partait, tout content, pour retrouver son beau bureau. Car Pierre Laval était devenu un très grand personnage. Aujourd'hui, c'est fini, bien fini. D'abord, Pierre Laval est condamné à mort. Ensuite, le beau château est à vendre. Le seigneur de Châteldon a fui. On balaie jusqu'à ses traces. On vend les tableaux, les meubles, l'argenterie. On vend même les fameuses cravates qui se faisaient blanchir à Berlin ou à Rome. Tarie la petite source qui était devenue un pactole. Fini le pouvoir, les ambitions, les richesses. Adieu, veaux, vaches, cochons.
À Châteldon, dans le château, les résistants sont entrés. On vend sur la place publique les biens de Pierre Laval. On va aussi exécuter les animaux domestiques, les chiens, je crois, de Laval qui sont restés à Châteldon.
Et d'ailleurs, Eugénie crie le nom de ses chiens, hurle le nom de ses chiens. Ça impressionne beaucoup les familiers de Laval qui ont toujours vu une espèce de femme aux vertus paysannes, traditionnelles, très femme d'intérieur, calme, posée. Et elle devient comme folle en hurlant le nom de ses chiens. Oui, Laval se fait pas vraiment non plus beaucoup d'illusions. Il connaît les lois de la guerre, il sait qu'il est perdant. Sur le plan purement matériel, même si on manque un petit peu de preuves, il est presque certain qu'il a mis une bonne partie de sa fortune, qui est colossale, à l'abri aux États-Unis et en Suisse. Il a part de vers lui quelques dizaines de millions de francs de l'époque des fonds secrets. Donc il ne manque pas de moyens matériels. Évidemment que la perte du château de Châteldon, qui est le symbole de sa conquête de la notabilité, de la fortune à la fois politique et financière, lui pèse, mais il ne se faisait aucune illusion en partant. Et en fait, le château a été envahi même avant son départ. Ce qu'il suit à la radio avec un peu d'ironie goguenarde, ce sont cette vente aux enchères de ses biens avec des erreurs d'attribution. Ce qui est le plus essentiel dans ses souvenirs, il évoque les tapis, un tapis que lui a offert Staline. C'est une fameuse pelisse que lui a offert Staline et dont il ne se sépare jamais. Et pendant tout l'exil, sur la route de l'exil entre Nancy, Belfort et Fribourg, il réalise soudain qu'il a oublié sa pelisse. Et les Allemands sourient de son avarice parce qu'il fait tout un scandale pour récupérer cette fameuse pelisse. En fait, c'est pas la police, même s'il est très attaché à ce cadeau de Staline, parce que très impressionné par la personnalité de Staline, il considère que c'est vraiment le grand chef d'État qu'il a rencontré. C'est la petite capsule de cyanure qu'il y a dans une poche de la police qui constitue sa garantie de pouvoir conserver une forme de maîtrise sur son destin, quoi qu'il arrive. Et effectivement, c'est ce qu'il fera, avaler cette petite dose de cyanure qui sera malheureusement pour lui éventée et qui lui permettra pas d'échapper au peloton d'exécution.
Vous savez qui m'a offert cette pelisse ?
Non.
Non. Non. Staline. Ouais. Staline.
Passons maintenant au cinquième étage du château de Sigmaringen.
parmi les nouveaux locataires, un ministre très actif et fervent supporter du régime hitlérien.
Écoutez, Joseph Darnan, secrétaire général de la milice française. Milicien, milicienne, avant-gardiste, prends garde. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous dire toute mon affection, toute ma confiance et la certitude profonde que j'ai de l'issue victorieuse de notre combat politique.
Ce discours adressé aux miliciens par Darnan date du 16 août 1944, juste avant son départ pour l'Allemagne. Et quelques semaines plus tard, les miliciens débarquent eux aussi à Sigmaringen.
Alors ils sont assez peu, à peu près 1500-2000 je crois. Ils suivent Darnan.
Henri Rousseau.
Alors Darnan est un personnage important, c'était le chef de la milice. Il est à ce moment-là où il était, puisque le gouvernement n'est plus en fonction, n'était plus en fonction en France, et va faire semblant de recréer un gouvernement d'exil à Sigmaringen. Il était secrétaire d'État au maintien de l'ordre. Bon, pour aller vite, la milice a été créée en 1943. C'est un instrument de lutte contre la résistance. C'est un instrument de propagande du régime et c'est une organisation un peu hybride. C'est, on va dire, à la fois une sorte de parti politique, puisqu'elle elle a des mots d'ordre, elle a un chant, elle a toute une liturgie qui lui a, elle a un insigne, exactement comme la plupart des partis fascistes en Europe.
Leurs armes sont la discipline et l'esprit de sacrifice. La discipline, d'où leur hiérarchie et leur uniforme. L'esprit de sacrifice, d'où leur serment.
Serment des miliciens, janvier 1943.
Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion.
Ça a été un des principaux parti, si on peut dire, en mouvement de la collaboration et de la collaboration active avec les nazis. Mais en même temps, à partir de 1943 et entre 43 et 44, elle va être un élément de l'appareil d'État. Darnan étant nommé au gouvernement, elle va avoir des fonctions entre guillemets officielles. C'est-à-dire, ces gens sont investis de la légitimité entre guillemets du gouvernement français. Alors, la milice, au total, a dû regrouper au grand maximum 30 000 personnes qui n'étaient pas tous des militants paramilitaires.
Nous avons voulu, en nous dressant contre le capitalisme, contre les éternels profiteurs de la misère des ouvriers, abolir la condition prolétarienne.
Joseph Darnan, 16 août 1944.
Nos adversaires n'ont jamais dit que plus de 2/3 de nos effectifs viennent du peuple, du vrai, de celui qui fait les guerres et qui souffre des victoires manquées comme des défaites.
Oui, il y avait quand même, disons, une majorité assez importante d'ouvriers, de petits commerçants.
Georges Rouchouz, ancien milicien, 1988.
Et la plus grosse partie de ces gens venait du Parti Social Français, ancien Croix de Feu et PSF. Ensuite, Action Française. On trouvait des socialistes tendance DA. On trouvait l'ancien communiste. Mais la grosse majorité a été quand même formée, disons, par des petites gens, des commerçants et des ouvriers. C'était la formation, disons, majoritaire de la milice.
Beaucoup d'ouvriers, certes. Toutefois, ajoutons aussi que la milice compte de nombreux notables, comme des journalistes, des militaires, des professeurs ou encore des industriels. Précisons alors que le lien qui unissait l'ensemble de ces miliciens, c'était avant tout la haine de la démocratie et de la République. Une milice doté d'ailleurs d'un chant réactionnaire et violent.
Le chant de la milice s'intitulait « Le chant des cordes ». Le premier refrain disait ceci. à genoux nous fîmes le serment, miliciens de mourir en chantant, s'il le faut pour notre noble idéal, amoureux de gloire et de grandeur. À genoux, nous fîmes le serment, miliciens de mourir en chantant. Voilà.
Dépêchez-vous, montez là-haut. Voilà. Là.
Il y a un élément de la milice qu'on appelle la Front d'Armes, qui, lui, est une organisation paramilitaire.
Anjou, feu !
C'est cette franc-garde qui va être engagée aux côtés des Allemands dans la répression du maquis des Glières, du maquis du Vercors. Donc ils sont véritablement un instrument de lutte contre la résistance. Ils sont connus pour avoir commis énormément d'exactions.
Bon, la milice ! Vous allez payer pour tous ceux qui sont morts à cause de vous ! À mort les collabos !
Et donc, à la fin de l'occupation, quand les armées alliées avancent et quand le général de Gaulle arrive à Paris et que bon, c'est la fin, c'est fini, ils vont fuir. Donc ils vont fuir vers l'Est, comme les autres collaborateurs. Hein. Une partie va venir à Sigmaringen avec Darnand. Une partie sera logée à côté de Sigmaringen dans des conditions qui sont assez mauvaises, qui sont mis avec leur famille. Ce sont des fugitifs. Pour une raison assez simple, hein. Les miliciens faisaient partie des gens qui, une fois rattrapés par les résistants ou la justice, risquaient la mort. C'était le symbole de la trahison, le symbole des massacres commis à la fin de l'occupation. Donc la plupart avaient très peu de chances de s'en tirer. Bon, beaucoup finalement s'en sont tirés, mais donc ils ont fui avec leur famille.
À la fin de l'été 1944, les miliciens fuient donc vers Sigmaringen, où ils viennent trouver refuge auprès du maréchal Pétain. Henri Mainviel, ancien cadet de la milice, se souvenait en 1996 de son arrivée.
Nous avons occupé à Sigmaringen un camp que nous laissaient les jeunesses hitlériennes. Camp impeccablement tenu, n'est-ce pas, à 2 kilomètres de la ville sur la route de Stuttgart. Dans un vallon, n'est-ce pas, encaissé entre deux forêts de pins, enfin, sapins, etc. C'était vraiment un endroit idéal pour installer un petit camp avec 300 personnes, c'était à peu près, n'est-ce pas, l'effectif à ce moment-là.
Les miliciens prennent donc leur quartier dans un camp à proximité de Sigmaringen. Quel regard portent-ils sur cette mascarade qui se joue dans cette bourgade du Bade-Württemberg?
Ce gouvernement de Vichy faisait sourire les gens.
Georges Rouchouze, 1988.
Cette fameuse délégation française, parce qu'elle ne représentait absolument rien, sinon quelques messieurs qui s'étaient dotés des titres ronflants, de ministres, de chefs de ci, de chefs de là. Ça nous rappelait un petit peu l'armée mexicaine, où il y a 50 généraux pour 5 soldats. C'est un petit peu l'image qu'on en tirait. Lorsqu'on en parlait, ça nous faisait tous sourire.
Parmi les miliciens présents à Sigmaringen, on trouve Philippe Darnand, le fils du secrétaire d'État à l'intérieur.
Quand nous sommes arrivés ici, je devais avoir 18 ans et un ou deux mois. Nous avons habité dans les appartements de la princesse de Hohenzollern, mais je ne suis pas resté longtemps car je suis parti à l'avant-garde. Mon père ne pouvait pas quand même supporter que je vis la vie de château quand toute la milice était engagée.
Nous sommes en 1996 et Philippe Darnand revient au château 50 ans plus tard.
Il y avait une guérite là, voyez-vous, juste où les jeunes filles arrivent, il y avait une guérite. Je faisais comme tout le monde, les 100 pas, et on présentait les armes quand il y avait une personnalité qui arrivait. Et voilà, on faisait notre petit service ici. Et c'est là que je saluais. Mais je dis saluer d'ailleurs le maréchal Pétain, j'imagine, il me semble une fois, Laval certainement, et alors mon père surtout, il était tellement ému.
Nous sommes à présent dans le corps de garde du château de Sigmaringen, juste après l'entrée dans la cour. Donc l'endroit où normalement les gardiens du château, les défenseurs du château se tenaient à l'origine.
L'historienne Bénédicte Vergès-Chaignon.
Donc salle plutôt néo-gothique, très très largement pourvue de trophées de chasse et de sombres meubles néo-renaissance, de jolies fenêtres donnant sur le bourg et apportant un peu de lumière dans cet ensemble très sombre. Nous pouvons nous représenter que c'est ici que se tenaient entre deux factions les miliciens qui assuraient la garde de Sigmaringen, du château et plus précisément de la commission gouvernementale. Au moins deux d'entre eux se tenaient à la poterne, à l'entrée du château, et il fallait s'adresser à eux pour pouvoir entrer dans le château, demander une audience à un des occupants du château, et à ce moment-là, le milicien allait demander des consignes à l'intérieur. Nous connaissons ce détail grâce à un membre de la division Charlemagne, Christian de la Mazière, très connu pour avoir été l'un des protagonistes du film Le Chagrin et la Pitié.
Est-ce que ça vous gêne si on dit que, pour vous caractériser grossièrement, en 1941, vous étiez un jeune fasciste ?
Non, ça ne me gêne pas. Bon.
Christian de la Mazière, jeune fasciste français, né à Tours en 1922 et mort à Paris en 2006, est un témoin majeur du documentaire Le Chagrin et la Pitié. La Mazière fut lui aussi un exilé à Sigmaringen.
Nous sommes arrivés ici, nous sommes présentés au château et nous avons demandé à voir le maréchal. Il y avait des gardes d'ailleurs, il y avait des gendarmes français qui étaient là. On a transmis notre demande et c'était impossible. Le maréchal a refusé de nous recevoir.
À Laval non plus.
Et nous n'avons pas pu voir le président Laval.
Comment vous avez ressenti ça, au fond ? C'était une sorte de désaveu assez grave, puisque vous étiez en droit d'imaginer au moins une complicité entre des gens qui défendaient une certaine politique et vous qui, d'une certaine manière, l'appliquiez.
Oui, ça a été un désaveu total, brutal. Ça nous a d'ailleurs donné envie de partir très vite et de rejoindre nos camarades à Wilflecken pour rejoindre le front de l'Est et en finir. Parce que nous n'avions plus aucune illusion, hein. Il faut quand même le préciser, il y a eu 7000 garçons venus des horizons les plus divers qui ont combattu sur le front de l'Est, dans la division Charlemagne. La majorité, comme je vous l'ai dit, n'était pas du tout préparée à prendre cet uniforme. Et surtout prendre en plus l'uniforme le plus excessif.
Qui était celui de la Waffen-SS.
Celui qui était de la Waffen-SS.
Et les Français, donc, de Vichy, vous accueillaient devant cet uniforme comme si vous étiez le symbole de...
Oui, de quelque chose qui était quand même gênant et qui allait surtout gêner demain les explications.
Heil Hitler!
Prestation de serment des unités de la Waffen-SS, le 12 novembre 1944, au camp de Wilflecken. Je jure d'obéir fidèlement à Adolf Hitler, chef de la Waffen-SS, dans le combat contre le bolchevisme en loyal soldat. Je te jure, Adolf Hitler, en tant que Führer et chancelier du Grand Reich allemand, fidélité et bravoure. Je te promets, à toi et au chef par toi, d'être obéissant jusqu'à la mort. Que Dieu me vienne en aide.
Et vos rapports avec les Allemands étaient comment ? Vous les appeliez comment, les Allemands ?
Wichle. Ça, je crois que je ne connais pas
un Français de la Charlemagne qui a appelé les Allemands autrement que les Schleus.
Oui, mais ça partait mal alors, l'armée.
Oui, et puis la majorité appelait Hitler le Grand Jules. Oui, mais ça, c'est le Français. C'est comme ça. Puis le Grand Jules.
Après avoir été rattaché au régime de Vichy, de nombreux miliciens français, encouragés par Joseph Darnan, suivent le même chemin que Christian de Lamazière.
Après, une partie d'entre eux ont été versés dans la division Charlemagne, qui est la division Waffen-SS. Alors, la Waffen-SS, c'est l'unité armée de la SS, c'est une unité militaire qui va regrouper jusqu'à à peu près 7000 hommes et qui va, comment dire, oui, regrouper tous les éléments qui étaient des éléments paramilitaires ou militaires. Certains venaient de l'ancienne Légion des volontaires français contre le bolchevisme. Il y avait eu ensuite une brigade SS, donc on était sur des effectifs quand même très, très peu nombreux. Avec les miliciens, bon, les Allemands vont essayer de les regrouper et de faire une division française, laquelle ensuite va être entraînée et ensuite vont être envoyés sur le front de l'Est, donc beaucoup vont y rester. Voilà. Voilà, ça c'est un peu le destin d'une force qui s'est prétendue à la fois l'émanation d'un gouvernement français, ce qu'elle était. Elle a été créée par Laval, elle a été créée par le gouvernement français, dont une partie a fini en Allemagne et une partie a été tuée sur le front de l'Est.
Ayez confiance en moi, en vous, en notre cause. Montrez-vous digne de nos morts. Et je suis sûr que, dans des jours très prochains, tous ensemble, dans une suprême bataille politique, nous allons forcer le destin.
Vous venez d'entendre Joseph Darnan, secrétaire général de la milice française.
En conclusion de ce deuxième épisode, retenez d'abord qu'à Sigmaringen, Pierre Laval et Philippe Pétain se tiennent à distance des ultras de la collaboration. Et dans ce château où ils s'ignorent et se haïssent mutuellement, les deux fantômes de Vichy préparent leur défense en vue de leur procès à venir.
Mais enfin Bernard, qu'est-ce qu'il fait ?
Il écrit, Madame la Maréchale.
Or, le drapeau tricolore flotte fièrement sur la cité des Hohenzollern. Une enclave sous la responsabilité légale de Philippe Pétain, puisqu'il n'a toujours pas démissionné. Et par ailleurs, dans ce château de Sigmaringen, sous pavillon français, on héberge Helmut Noren, chef de la Gestapo à Paris sous l'occupation et organisateur de la déportation des Juifs et des résistants. Un château hanté, donc, qui attire d'abord à lui la milice.
Je m'engage sur l'honneur à servir la France et le maréchal Pétain.
Puis toute une population de pétainistes et de collaborationnistes. Ainsi, dans le sillage du maréchal, à partir du mois d'octobre 1944, arrivent à Sigmaringen des centaines de Français qui viennent y trouver refuge. Deux mondes cohabitent désormais à Sigmaringen. Le monde d'en haut, celui du château, avec ses ministres et leurs privilèges, et le monde d'en bas, celui de centaines de réfugiés en déroute. Une distinction géographique dont se souvenait très bien Françoise Luchère, la femme du commissaire à l'information, installée au château.
Quand je regardais à ma fenêtre, je regardais la ville basse, je me dis, mon Dieu, quel cauchemar. Je rêve en ce moment et le cauchemar est en bas.
À quoi ressemble la vie de cette bourgade allemande, submergée par des milliers de collabos français ? C'est l'horizon du prochain épisode. Le crépuscule des bourreaux. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Elsa Le Poivre, de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem, Fanny Petit et Alice Doucerin. Documentation sonore, Frédéric Martin. Prise de son à Sigmaringen, Gilles Gallinaro. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, la colonie des collabos. Le crépuscule des bourreaux est un podcast original de France Inter.